présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le soir, lorsqu'il rentre, se retrouve sa femme au salon et est assise à lire un livre. Il va vers elle et lui dit « Delphine, c'est terrible ce qui nous arrive. Ta fille est folle. Elle fréquente le fils d'une famille de voleurs. Anard est lyonnais par-dessus le marché. » Elle lui dit « Je ne comprends pas. François, un voleur, il en est bien capable, le pauvre. » Il lui dit, « Pour le moment, ce sont ses parents, les voleurs. Ils sont en prison. Ce sont des communards anards. » Elle lui fait, « Ce n'est pas possible. Lui, si gentil. » Il lui dit, « Hélas, et lui raconte tout ce qu'il sait. Elle est gênée parce qu'elle a eu un faible pour lui. Une fois qu'il est fini, elle lui demande « Qu'allons-nous faire ?» Il lui dit « Il faut que notre fille s'éloigne. Oui, qu'elle s'éloigne. » Demi-heure plus tard, Christelle arrive. Elle retrouve au salon sa mère. Sa mère lui dit « Tu sais, pauvre jeune homme, François, eh bien je crains que ce ne soit pas possible. » « Et pourquoi, mère ?»« Eh bien parce qu'il n'a rien, ce jeune homme, et que l'on dit des choses sur ses origines tout à fait déplaisantes. Je m'en moque. » Sa mère lui dit « Oh, ce garçon est peut-être bien gentil, mais pas fréquentable. » Elle ne dit plus rien. Le père dit à sa femme durant le dîner. Elle va réfléchir. Laisse-la. Dans l'après-midi, lorsqu'elle revoit François aux Champs-Élysées, elle lui dit « Ma famille ne veut pas de ce mariage. Nous allons partir ensemble. D'après un moment, ils accepteront que l'on se marie. » Il lui fait « Mais... » Elle lui dit « On ne peut pas vous refuser ça, parce que c'est toi qui me mets dans cette difficulté. » Il réfléchit et se dit que s'il accepte de partir avec elle, il l'aura. La fille d'un ministre, ça ne se refuse pas. Il lui dit,
oui, bien sûr, je sais que je vais partir avec toi. Mais je ne sais pas comment faire, tu comprends? Je n'ai pas l'habitude de m'occuper de quelqu'un. Je me sens un peu perdu.
Il la prend dans ses bras et met sa tête sur son épaule. Elle est très émue et lui dit,
ne fais pas de soucis, m'occupe de tout. Tu verras, nous serons heureux. Nous allons souvent trouver un endroit tranquille pour vivre heureux. Peut-être en Savoie, en pleine montagne. Tu connais la montagne?
Il lui dit non. Elle lui fait,
tu n'es jamais allé en montagne, même pendant les vacances d'hiver. Alors où l'alliez-vous?
Il lui dit,
l'hiver, c'est la saison où mon père travaillait le plus, tu comprends?
Alors, comme toujours, je restais seul chez moi, à attendre mes parents. Elle lui fait,
oh, mon pauvre chéri.
Elle l'embrasse sur la joue, lui dit,
avec moi, tu seras toujours heureux. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit « Avec moi, tu seras toujours heureux. »
Il se dit qu'il y compte bien, mais se dit aussi que c'est une petite fille gâtée et qu'elle ne peut vivre dans la pauvreté. Elle ne se rend pas compte que partir comme ça, ça ne va pas être facile. Elle risque sûrement de le regretter. Et pour qu'elle ne le regrette pas, il faut absolument qu'il trouve quelque chose. Après avoir bu leur jus d'orange, elle lui dit « Ma famille va sûrement vouloir nous éloigner. Il faut faire vite. Dépêche-toi, prépare tes affaires. Les mettre dans une valise. Et regarde ton compte.
Mais si le plus d'argent peut dessus, moi je vais en faire autant. Je te préviendrai lorsque nous pourrons partir. Il se dit le plus tard possible. De nouveau coup, il se voit sur les routes avec une valise à la main et elle près de lui, marchant pendant des heures en se disant qu'il pourrait rester près de Paul, bien tranquille, puisqu'il a tout ce qu'il veut avec lui. Or, pourquoi doit-il partir? Malheureusement, oui, c'est mieux pour la société de vivre avec une fille riche qu'avec un homme riche aussi. Se sont quittés en se disant leur amour. François est bien ennuyé, regarde son compte et voit qu'il lui reste juste de quoi vivre, disons à peine 3 jours et encore avec la fille. Il n'ose pas demander à Paul de l'argent. Et sous quel prétexte? Ce serait pas bien de lui faire sentir que cet argent servirait à le quitter. Il tourne en rond et ne voit rien, aucune solution. Cela l'énerve et se met à moins aimer la fille. Il se dit qu'elle n'a qu'à partir. Qu'elle n'a qu'à pas partir de chez ses parents. Ils sont jeunes, ils peuvent bien attendre. Et puis, il se dit que puisque la chose est décidée, puisqu'elle le veut vraiment, il faut qu'elle se fasse. Donc, trouver de l'argent est beaucoup. Paul le voit tourner nerveusement, mais n'ose pas lui poser de questions. Christelle continue à voir, comme d'habitude, ses parents. Ses parents la surveillent, mais ne lui parlent plus de lui. Son père se dit qu'il faut qu'elle pense à tout ça, qu'elle se voit vivant dans un taudis à Lyon, au milieu de bêtes informes, qui font des bruits insupportables et entourés de voisins anards, des ruelles sombres et sales, humides, luisantes. Ville pas brumeuse riche, mais brumeuse pauvre, c'est-à-dire grise, froide, la brume qui apporte les maladies des pauvres, qui rend tout ce qui nous. Entoure poisseuse. Elle n'a connu que le bien-être des riches. Elle n'a connu que les brumes des riches qui rendent les paysages pastels, plus romantiques, qui donnent une douceur aux paysages et aux gens. Sa mère, malgré elle, est jalouse. Elle la voit vivant
le parfait amour, bien sûr, dans la pureté, mais une pureté tout de même amoureuse. Pour elle, elle voit la pureté comme si sa fille vivait purement, c'est-à-dire sans âge. Et vivant pauvrement, cherchant à manger, vieillissant, etc. Vivant dans un taudis. Pour elle, la pauvreté, ce n'est que de ce qu'elle ne pourra pas aller à des soirées. Parce que malgré tout, sa fille est plus réaliste qu'elle. Ne plus avoir de robe, rien de plus. Mais elle les voit heureux tous les deux, enlacés, près d'une cheminée allumée. Bien sûr, s'il n'aurait plus de chauffage central. Mais ce manque de confort leur donne une intimité plus chaleureuse. Elle les voit donc enlacés, dans une vieille cabane. Mais qui a tout ce qu'il faut, et vivant leur amour, un amour réel et heureux. Cela lui fait mal de voir sa fille. Qu'il aimera et qu'il aura pour elle toute seule. Elle se dit qu'elle devrait avoir le courage de partir comme ça avec lui. C'est elle qui devra avoir l'exclusivité puisqu'elle l'a trouvé la première. Les jours passent. Tout le monde est malheureux, et tout ça à cause d'une fille qui se croit amoureuse. Parce qu'un garçon se laisse prendre comme une poupée. Oui, François a remplacé sa poupée. C'est pour ça qu'elle croit l'aimer. Parce qu'elle peut épancher ses besoins de tendresse sur lui et de s'occuper de quelqu'un. Un soir, Paul, pendant le dîner, dit à François:
nous sommes invités chez un peintre dans le vent. Est-ce que tu veux venir avec moi à une soirée? Il prépare une fête pour son exposition. François lui dit: oui, bien sûr, et puis ça me permettra d'être près de toi. Paul est content. Il se dit que s'il a dit ça, cela veut peut-être dire qu'il a arrêté de penser à cette fille. Il lui dit: merci, mais ça te fait plaisir d'être avec moi? Alors demain, nous partirons à 21h. François lui demande: c'est où? Paul lui dit: dans le quartier du Marais. François lui fait: le Marais, je n'aime pas tellement ce coin. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'on va manger tout cru. » Paul lui dit, « Te fais pas de soucis, je serai là, près de toi. » Et puis, ils ne sont pas méchants. Que veux-tu, ils n'ont pas souvent la joie de voir un si joli garçon. Et le lendemain soir, ils sont allés à leur soirée. La soirée se passe dans un vieil immeuble, une petite rue, pleine de boutiques, de mode, bars, antiquaires et galeries. Les magasins, bars, etc. ne sont pas très grands et sont tous les uns sur les autres. La nuit, toutes les boutiques sont illuminées et on ça donne une ambiance de fête parce que l'on entend de la musique qui sort de des boutiques. La rue n'est pas très grande et tout se touche. Il y a du monde dehors. Tout est des hommes de tout âge, habillés, disons, façon marin, folle, etc. Le pantalon très moulant. Le visage maquillé, fond teint, les puces, boucles d'oreilles, colliers, etc. Vous voyez le genre. Paul a arrêté sa voiture au bout de la rue. Il marche à pied au milieu de cette faune. On leur lance des œillades. Paul lui dit, on est arrivé, c'est l'immeuble, là. Il y a la galerie. C'est écrit en gros, en lettres roses, Galerie Art, très gai. Il s'arrête devant la vitrine de la galerie qui est restée illuminée. On voit de grandes toiles, c'est des portraits de marins. Le regard aguicheur, visage blanc, débardeur, montrant des bras bien musclés. Paul lui dit, c'est sa période marin, marine. François lui dit, oui mais la mer est loin. Paul lui dit, c'est un portraitiste, le paysage ne l'intéresse pas. Ben pourquoi peindre des marins? Je ne sais pas. Allons, entrons. Ils entrent dans l'allée par une petite porte étroite en bois peint marron. Il n'y a pas de fermeture. On entend le bruit de la musique et des invités. L'allée est décorée de guirlandes en papier le long du mur et sur le plafond du hall. Il y a contre le mur des escaliers une grande flèche en papier rose est écrite « La soirée de Michel est au deuxième étage. Suivez la flèche. » Un peu plus loin, il y a au mur un dessin de marin. Paul dit, toute la rue est comme ça. Ils arrivent au deuxième étage. La porte de l'appartement est ouverte. Il y a foule. Une foule énorme. Musique à fond. Des spots qui éclairent par éclipse avec des couleurs rouges, jaunes ou bleues. Paul et François entrent, leur semble entrer dans un immense couloir morphique et noir. Paul dit, on entre, on reste pas dans ce foutoir. Je cherche le maître de maison pour lui montrer que l'on est venu et l'on part. Je cherche le maître de maison. Mais c'est pas facile dans cette foule. En passant, ils se font pincer, caresser. On leur fait des ouh ouh,
des oyages, etc. Les gens sont habillés comme pour le carnaval. Dans un endroit qui doit être le fond de la pièce, ils voient son trois murs, discutant avec un homme grand, mince, cheveux blancs, habillé en cuir noir, l'homme des lieux. C'est un homme grand, mince, tête osseuse, cheveux et barbe blanche, qui a été blonde, est habillé en marin. Paul dit à François, c'est lui. Lorsqu'il s'approche des deux hommes, surluquent le pauvre François des pieds à la tête. Paul dit au blond, Michel, merci pour ton invitation. Michel le voit et lui dit, oh, c'est naturel, mon chou. Et il s'embrasse sur les joues. Michel demande, quel est ce jeune homme? Paul dit, c'est François, mon neveu. Enchanté. Et il veut l'embrasser. François, surpris, se retire. Paul dit, il y a du monde? Oui, beaucoup. Ah, oui, je te présente Laurent Duteuil, mon comptable. Il le lui présente, c'est l'homme aux cheveux blancs.
Bonjour, bonjour.
Paul lui dit, bon, eh bien, nous allons vous laisser. Michel lui dit, mais non, pas du tout. Il y a de tout pour s'amuser, ici, même de la blanche. Et puis, il faut que ce jeune homme s'amuse. Venez, jeune homme, venez danser. Toi, Paul, explique le mariage de la musique et la peinture à mon ami. Paul est furieux. François est embarqué par cette espèce de fou. Fois éloigné, François lui dit,
je ne sais pas très bien danser, vous savez.
Michel lui dit, ça n'a aucune importance. Tu n'as qu'à faire vibrer ton corps au rythme de la musique. Allez, mon chou. François lui dit, je dois vous prévenir de suite, je ne suis pas enfin le muni. Peut-être un jour. Allez, détends-toi.
Il va lui chercher un grand verre.
Tiens,
qu'est-ce que c'est?
Quoi? Ça donne des forces et joie.
François boit. C'est un goût d'orange, de rhum et bien d'autres choses. C'est fort. Une fois qu'il a fini son verre, il a chaud.
Allez, laisse-toi envahir par la musique. Fais comme moi. François l'imite. Petit à petit, il se sent plus léger, joyeux. Il se laisse guider par la musique. Michel lui donne encore un verre qu'il boit d'un coup. Et là, il se met à danser seul, d'une façon frénétique, envahi par la musique. Se déhanche si bien et rend son corps si gracieux que tout le monde s'est arrêté de danser et le regarde danser seul. Lui ne s'en rend compte de rien. Paul est furieux et va arrêter tout ça. Michel le retient à la manche et lui dit, laisse-le, il s'amuse.
Paul laisse faire.
Il voit que François se déhanche d'une façon impudique devant les yeux remplis de désir. Ça dure un bon moment. Puis, on essaye de s'approcher, de toucher. Mais lui, instinctivement, s'éloigne de ses mains pleines de désir. Il est inconscient et ne se rend pas compte de ce qu'il éveille chez les autres. Il danse de plus en plus vite, en sueur. Et son corps baigné par la musique et cette lumière qui bouge tout le temps au milieu de ses visages qui semblent lui sourire. Puis, tout d'un coup, il a vu tout tourner et tomber à terre. Tombé à terre. On l'entoure. Paul accourt
avec Michel, qui se penche. Feu le retour. Pour un visage inanimé, un ange est dévoilé à l'assistance. Michel dit, c'est la fatigue, on va le porter à ma chambre. Et le laisser le temps qu'il se remette. Je suis navré. C'est ma faute. Paul ne dit rien. Il soulève François, le prend dans ses bras. Et suit Michel. Les invités leur laissent le passage. Ils sont éblouis et émus. Un soldat fou dit, c'est un enfant, un ange. Michel ouvre une porte. C'est au fond du couloir. C'est sombre. Il fait monter les escaliers. Les escaliers de bois étroits. Ouvre une porte qui en haut des escaliers éclaire. Petit couloir sombre qui dit
c'est le coin privé de mon appartement. En fait, l'appartement de devant que j'ai acheté et fait mettre un escalier pour accéder.
Il ouvre une autre porte. Allume. Ils entrent. C'est une chambre grande, plafond à la française, mur crépi blanc, gros meubles de chêne, de campagne en bois couleur sombre. Deux tables de nuit, secrétaire, une coiffeuse. Armoire du porte. Le lit a un gros édredon beige. Michel lui dit,
allonge-le sur le lit.
C'est ce que fait Paul, délicieux, délicatement. François n'a pas repris ses esprits et s'endormit, mais sans rêve. Michel dit à Paul,
je suis navré, je ne voulais pas.
Paul lui dit, non, c'est moi qui le suis. J'aurais pas dû lui dire de venir. Il n'a jamais été dans ce genre de soirée. Michel lui dit, je vais lui chercher un peu d'alcool pour lui mettre sur le visage. Et il quitte la pièce. Paul se dit que François, dès qu'il ira mieux, ils partiront. Il regarde son ami, il caresse la main. Il se dit qu'il l'aime vraiment, sans aucune arrière-pensée. Michel revient avec une serviette rose de bain et un flacon bleu. Paul lui dit, laisse, je vais le faire. Michel lui dit,
oui, bien sûr.
Et il le lui tend. Paul ouvre le flacon. Ça sent l'alcool de menthe. Cette odeur lui rappelle le temps où, enfant malade, d'une crise de foie, sa grand-mère lui passait le gant imbibé de ce liquide froid et doux. Allongé dans la pénombre d'une chambre. Maintenant, c'est lui qui passe la serviette imbibée du liquide sur le visage de son ami. Ça l'émeut jusqu'aux larmes et se dit que c'est comme s'il lui redonnait du fluide pour le faire revivre, comme une seconde naissance en fait. Il aimerait que cet instant durât longtemps. François est inconscient et à sa merci. Pour passer. sa serviette sur la peau douce et fine de ce visage qui semble innocent comme un ange. Il aime le sentir, mais pas à sa merci, mais qu'il ait besoin de lui. Là, c'est un François qui a personne d'autre et semble innocent et pur. Puis, petit à petit, François reprend conscience dans une douceur étrange. Il voit pencher sur lui le visage de Paul. Il lui dit « Paul ?» Paul lui dit « Oui, tu as eu un malaise. Tu as trop dansé et bu. » Apparaît à côté de celui de Paul le visage de Michel qui lui dit « Tout est de ma faute. Je m'en excuse. » François lui dit « Je me souviens de rien. » Paul lui demande « Comment te sens-tu ? » « Très bien. Tu veux rentrer ? » Je ne sais pas, j'aimerais tout de même essayer de voir un peu la fête, puisque l'on est là. Paul lui dit, si tu veux, il en reste un peu, mais pas trop. Michel lui dit, il faudra rester sage, ne pas boire ni danser. François lui dit, si vous étonnez, il se soulève et se lève. Paul dit, eh bien, allons-y. Mais ils sortent de la chambre pour aller rejoindre la fête. Paul aurait mieux aimé, c'est que François quitta la soirée de suite. Arrivé où se trouve la soirée, les gens lui font fête, lui demandent s'il va mieux. Il y a un danseur formidable. Michel dit, il est un peu fatigué. Il reste un moment, mais ne danse pas ni alcool. Laurent demande, il peut discuter avec moi? Paul regarde Michel. Michel dit, oui bien sûr, il peut parler avec qui il veut. Il dit à Paul, on ne peut pas faire autrement, c'est une soirée. Et puis, ton ami peut appeler. Allez, détends-toi un peu. Et s'éloigne. Michel lui dit, ça fait longtemps que tu connais ton neveu. Paul lui dit, depuis sa naissance, je ne savais pas. Paul, où tu l'as-tu déniché celui-là? Paul lui dit, arrête, je t'en prie, c'est pas ce que tu crois. Ah, je vois, c'est du sérieux. Mon pauvre vieux va, Paul lui dit. Qu'est-ce que tu peux savoir des rapports qu'il y a entre deux personnes? Rien. Tu vois comme les autres, que des apparences, rien d'autre. Moi et lui, on vit ça et c'est plus que des apparences. Les relations entre les êtres, c'est plus que des apparences. C'est lui, c'est tout. Michel lui dit, pardonne-moi, je suis superficiel. En tout cas, pour les autres. Je vois ce que tu veux dire. La vie intime des gens, entre eux, on n'en voit que la surface. Mais est-ce qu'un être, ben, ne voit-on pas que la surface d'un être, des autres aussi, personne ne peut savoir vraiment ce qu'est l'autre. Tu comprends? Paul lui dit, arrête, tu me fais mal. Tu alors?
Que va-t-il se passer, madame?
Lorsqu'il était innocent, à ma merci, à moi, j'avais l'impression qu'il faisait partie de moi. J'en étais ému. Tu ne peux pas savoir. Mais mon amour pour lui est devenu pur, pur comme le diamant. Michel lui dit,
mon pauvre Paul, que vas-tu devenir ?
Paul lui dit, je ne sais pas. Pour moi, après, il n'y a rien. Seul peut-être Dieu pourra m'aider après. Mais je ne crois pas. Rien, rien.
Michel lui dit, dès notre naissance, nous sommes condamnés à cette solitude, à ce vide. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes damnés, damnés. Paul dans ses bras lui dit, mais nous sommes les seuls à reconnaître la beauté. Tu pourras toujours compter sur moi. Ressorte un peu plus loin avec cet homme, à cheveux blancs et vêtements de cuir, ce Laurent Dutheil. Je ne sais pas pourquoi il s'est laissé entraîner par lui. Laurent lui dit, alors, vous êtes le neveu de Paul ? François lui répond,
oui.
Laurent lui dit, et qu'est-ce que tu fais avec Paul ? François lui dit, rien de ce que vous croyez. Paul est très gentil. Je vis chez lui parce que mes parents sont morts. Et voilà, tout. Je ne savais pas. J'ai pas voulu vous mettre en colère. François lui dit. Et puis, je ne sais pas ce que vous croyez. J'ai une amie, mais on va se marier. En fait, peut-être bientôt. Je suis enchanté. François. Viens, on s'en va. C'est Paul qui vient de parler. Laurent dit à François. J'aimerais me faire pardonner ma mufflerie. Qui est... pour cacher ma misère. On joue tous la comédie. Alors surtout devant un beau garçon. Tu me pardonnes ? François lui dit, oui. Laurent lui dit, pour me faire pardonner, je t'invite, si tu veux, demain après-midi à 15h, en face de la gare de Lyon. Nous irons manger une glace. Tu connais la gare de Lyon ? Tu sais où c'est ? François lui dit, oui, bien sûr. Ça me rappellera mon arrivée à Paris. Il y a une éternité de ça. Laurent lui dit, il faudra que tu me racontes tout ça. François lui dit, il n'y a rien à dire. Paul était là. Dommage, seul à Paris, c'est bien. Alors, à demain. François lui dit, ma foi, si vous étonnez. Il retrouve Paul. Paul lui demande, qu'est-ce qu'il te voulait ? Rien, savoir qui j'étais. Alors je lui ai dit que j'étais ton neveu. Je lui dis, tu as bien fait. Allez, on rentre.
Qui sont dehors, la nuit leur fait du bien. Paul lui dit, il faut qu'ils soient dans la voiture. Ils sont un peu fous, mais pas méchants. Et il met la voiture en route. Lendemain après-midi, François se prépare pour sortir. Il a mis son costume marine. Paul lui demande, tu vas où ? Je veux manger une glace. Avec Christelle ? Oui. Il a menti à Paul. Oui. Il a menti à Paul et s'est servi de Christelle. Ça le gêne. Il se sent pas un type bien. Il se dit que ça fait moins de mal à Paul de savoir qu'il sort avec Christelle qu'avec Laurent.
Il va prendre le métro pour aller gare de Lyon.
y a 15 heures, il n'y a pas beaucoup de monde sur les quais.
Chaque fois qu'il y va, ça lui rappelle le temps où il essayait de vivre sous terre. Maintenant, il est devenu un beau garçon qui va se marier avec la fille du ministre de la Justice. Enfin, presque.
Mais s'il se fait arrêter, il n'aura qu'à dire le nom de son beau-père et on le libérera. C'est bien pratique.
Arrivé gare de Lyon, il finit par trouver ce Laurent. On le remarque de loin, avec sa tenue de cuir bleu pâle et ses cheveux blancs. On dirait un astronaute venu d'une autre planète. C'est un peu vrai. Il visite une planète hétéro. Lui, qui est d'une planète homo. Soit a un peu peur d'aller à lui, il se dit que tout le monde peut penser à des choses. Pourvu qu'il ne me prenne pas dans ses bras pour m'embrasser, qu'est-ce que va penser la mémère avec son caddie? Quand on lui fait « Salut, salut, viens, on va là » et le fait rentrer dans une brasserie glacier en face de la gare. Il y a du monde, ça fait assez ordinaire. Et s'assoit à une table. Une serveuse, petite, maigre, avec cheveux châtains, habillée en robe noire, leur demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Laurent lui dit « Des glaces. » À la table voisine, quatre menus de glaces. Laurent la prend et dit « Moi, je prends au chocolat. » Il attend François qui dit « Moi aussi, mais au mocha. » La fille s'éloigne. Laurent dit « J'aime bien venir ici, ça change du milieu. Là, les gens sont plus ordinaires, ils ont moins de relief, ça repose un peu. Je dans le rose bonbon et les mecs qui pensent tous à la même chose, ça fatigue. Là au moins, c'est terrain neutre. Même si on en rencontre un, ils nous ont rien fait. » François lui demande « Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça ?» La serveuse leur amène leur glace et une carafe d'eau, deux verres.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.